matin à chacun. Ça va? Oui! Hey, si ça fait drôle d'aller voir ça, c'est une grande chose. Est-ce que ma voix est trop forte? Vous allez peut-être changer d'idée. Vous savez, j'ai choisi un titre assez bizarre, peut-être, pour certains. C'est certain. Miroir, miroir sur le mur. Qui connaît l'histoire de cette phrase? C'était Blanche-Neige, n'est-ce pas? C'est la belle-mère, mais c'est dans l'histoire de Blanche-Neige, hein? Et il y avait cette belle-mère, ou je ne sais pas trop, cette princesse qui regardait le miroir, puis elle voulait être la plus belle. Puis à un moment donné, le miroir lui a dit, « Non, c'est plus toi la plus belle, c'est l'autre la plus belle. » Et je suis convaincu aujourd'hui, vous avez tous utilisé un miroir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas utilisé un miroir aujourd'hui, là. Toi, tu n'as pas utilisé de miroir? Tu es un brave. Moi, ma femme, elle sert d'un miroir. Elle me ping, puis je peux me fier sur elle. À fin de compte, ce matin, rapidement, j'aimerais passer au travers d'un paquet de choses. Vous savez, on est dans la reconstruction spirituelle, puis je me suis dit à moi-même, quelle sorte de photo que je pourrais montrer pour démontrer la reconstruction spirituelle de l'Assemblée du Cap. Et je vous dis bien franchement, c'est pas facile. Mais par contre, on pourrait dire « miroir, miroir », qui est la parole de Dieu, qui est un miroir. À quoi ressemble une église locale qui est belle, spirituellement? On peut avoir des beaux murs, on peut avoir, une belle façade. Mais on sait tous que c'est un outil, un bâtiment, très important, hein? De plus en plus on le reconnaît ici, là. La reconstruction spirituelle est quelque chose qui est encore plus évidente, dans le sens qu'elle va accomplir le mandat que le Seigneur nous a confié, d'aller par toutes les nations faire des disciples, baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner ce que le Seigneur nous a prescrit. Donc, à fin de compte, ce que je voudrais faire ce matin, c'est d'aller dans les Actes des Apôtres avec vous. Et si vous voulez tourner dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, on va lire ensemble quelques versets. Et de ces versets, je vais essayer de faire refléter, par la grâce de Dieu, refléter une église en santé, une église spirituelle, une église qui a un produit fini. Vous savez, au McDonald's, on fait des hamburgers, des Big Mac. Et si tu rentres dans un McDo, c'est tout à fait normal que tu vois un Big Mac. Puis posez-vous la question, si vous rentrez dans une église, qu'est-ce qui est naturel de rencontrer? Des Big Mac. Non, non, des chrétiens. On est, nous, à fin de compte, on l'a dit ce matin, la lumière du monde. Dans cette planète, ceux qui suivent les nouvelles, on a influencé avec la lumière de la parole, nous, l'Église, on est un chandelier. On doit influencer ce monde dans lequel on vit, en 2015. Et là, on va aller au premier siècle, voir la naissance de l'Église, dans le premier siècle, et vous allez voir que les éléments d'une église en santé, les éléments d'une église qui est belle aux yeux de Dieu, à fin de compte, c'est un élément que le Seigneur regarde ses enfants qui sont l'église, qui sont le temple, comme on a vu ce matin. Et dans ce que nous allons regarder ensemble, on va sortir des traits d'une église qui marche selon Jésus. À fin de compte, c'est un peu se poser la question. Vous êtes-vous déjà dit en vous-même, « Hey, moi, là, j'aimerais ça être dans le temps des Actes des Apôtres. » Hein? On lit ça, là, puis on dit, « Hey, si je serais là, là, hey, moi, là, hey, c'est excitant, ça brasse. » Puis on oublie que 30 chapitres pour 30 ans, là, mais quand même, tu sais, on est excité. On peut se poser la question, hein, à quoi ressemble l'Église locale dans les Actes? À quoi ça ressemble? Ça ne veut pas dire qu'on doit être exactement une photocopie, mais il y a des éléments spirituels dans l'Église qui est universel, qui traverse les siècles, Et il traverse les époques, les cultures, et c'est pour cela que l'Évangile fonctionne partout dans le monde, avec toutes les personnes. Il y a un peu partout dans le monde, avec différentes cultures. L'autre question, c'est comment reconnaître la vraie Église de Jésus-Christ? À quoi que je dois m'attendre lorsque j'arrive parmi des groupes, un groupe qui se dit l'Église de Jésus-Christ? Parce que vous savez, il n'y a pas rien que les évangéliques qui se disent l'Église de Jésus-Christ. Il y en a plusieurs qui se disent l'Église de Jésus-Christ. Et donc, moi, je vous propose ce matin de faire la lecture et ensemble, on va sortir ensemble. N'ayez pas peur, c'est 14 traits, mais je vais faire assez rapidement pour vous montrer un portrait global et non pas exhaustif, là, à couper les cheveux en quatre. Mais j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir ensemble puis en même temps nous donner des buts comme Église, des buts spirituels. Avoir des gens dans l'Assemblée qui vont faire comme la construction physique, avoir des gens qui font du BA, oui, du bénévole, avoir des professionnels dans ça qui vont aider à coordonner tout ça, mais spirituellement parlant, on veut, j'aimerais ça pointer du doigt le même scénario, mais sur l'aspect spirituel. Comment être une Église efficace en 2015? Réel que lorsque Jésus regarde, il n'a pas envie de pleurer. Il se réjouit. Et c'est important pour nous. Alors, je vous invite de tourner, s'il vous plaît, dans le deuxième chapitre des Actes. Et on va lire ensemble une série de versets. Et j'ai tout condensé ça dans la même série de versets. J'aurais pu prendre ailleurs, mais j'ai choisi de rester dans le même texte pour ne pas trop s'évaser là, dans le peu de temps que nous avons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de regarder l'heure avant que je commence? Il est à 11h22? Merci. On va lire la parole, chapitre 2, verset 36. Et j'ai fait exprès pour prendre le verset 36 parce que c'est Pierre qui termine, il fait son appel, il termine son message de l'Évangile. « Que toute la maison d'Israël... sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, Maître, et Christ, ça veut dire Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, ils les conjuguèrent. Et les exhortaient, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent le Seigneur, ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ici se termine la lecture de la parole de Dieu. C'est un épisode extraordinaire, c'est un épisode où ce qu'on voit la naissance de l'Église. Et nous avons, si vous voulez, une petite photo, une fenêtre ouverte dans le premier siècle. Nous qui sommes rendus en 2015, lorsqu'on observe ce qui s'est passé dans les Actes, puis en passant, les Actes n'est pas un livre doctrinal, mais une narration des choses qui sont passées au premier siècle. Et on a une histoire de 30 ans, et ça ne dit pas tout ce qui est arrivé, mais on a le principal par l'historien Luc qui a écrit. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est un peuple sauvé par la prédication de l'Évangile. À quoi ressemble l'Église de Jésus-Christ? L'Évangile a une première place. C'est la prédication de l'Évangile. Et jamais une Église pourra dire, nous, notre priorité, c'est de faire un club social où on va tous aller jouer au quai le mercredi et le dimanche matin. C'est pas ça une Église. Une Église a un mandat. Une Église a quelque chose à faire pour faire avancer l'Évangile. Parce que c'est un message qui est urgent, c'est un message pertinent, c'est un message actuel, et le Seigneur nous l'a confié. Il aurait pu confier ça à des anges puissants avec des bouches faites en haut-parleurs et puis qui seraient promenés au travers le monde en criant l'Évangile, et il aurait été tout puissant ces choses-là, puis là ça aurait fasciné les gens, puis là ils seraient venus au Seigneur. Non, le Seigneur a pris son peuple, il a pris ses enfants, il a placé le flambeau dans nos vies, comme Philippiens nous dit, et il a dit à ce peuple, « Vous allez être mes témoins ». Et souvent, je dis souvent que les témoins de Jéhovah ont volé l'un des noms des chrétiens. Nous sommes des témoins de Jésus. Et c'est cela qu'on voit dans les Actes des apôtres. Deuxième chose qu'on voit dans les Actes des apôtres, un peuple identifié, c'est-à-dire ceux qui sont alentour d'eux, voient clair. Ils ne sont pas des personnes qui sont autre chose que des chrétiens. D'ailleurs, lorsqu'on regarde dans les Actes un peu plus loin, on voit que les gens du dehors qui regardaient agir les croyants en Jésus, eux-mêmes les ont appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Jésus dans leur comportement. Donc, notre identité comme chrétiens, comme peuple de Dieu, est très importante. C'est quelque chose qui nous amène à réfléchir sur qui nous sommes. Le nombre des disciples du Seigneur Jésus. Lorsque je regarde l'Assemblée du Cap, est-ce que je vois des disciples du Seigneur Jésus? Est-ce que je suis un disciple du Seigneur Jésus? Ou suis-je un ami d'un tel ou d'un tel? Dans les églises, l'Église du premier siècle, l'identité première de tout enfant de Dieu, c'est qu'ils étaient un disciple du Seigneur Jésus. Quelqu'un me dit, il y a assez longtemps quand même, mais j'ai été surpris, il dit, Michel, il dit, toi, tu es un disciple, puis moi, je suis un chrétien normal. Il n'y en a pas de ça, là. Toi, tu es un disciple, puis moi, je suis un chrétien normal. Vous êtes aussi disciple que moi, même si vous n'êtes pas en avant en train d'ouvrir la parole. Ça dépend des dons et de l'appel de Dieu dans votre vie. Alors, on doit voir ensemble que notre identité, on est des disciples du Seigneur Jésus. On est un peuple sauvé par le même Évangile. On a le même Sauveur, on a été payé le même prix. On a le même modèle. On a été racheté du même prix. Comme je dis, je répète, c'est très important. Donc, aux yeux de Dieu, nous valons quelque chose qui est précieux. Nous sommes l'épouse, l'Église de Jésus-Christ, qu'on a parlé ce matin, qu'on est assis aux noces de l'agneau. Un peuple identifié. C'est important pour nous d'être identifié, d'avoir un nom qui dit, là, voici qui nous sommes. Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Qu'est-ce que vous faites là? Des Big Mac? Non. Nous, on veut aimer Dieu et aimer notre prochain. Puis démontrer l'amour de Dieu en annonçant l'Évangile, en vivant l'Évangile. C'est ce qu'on veut faire comme Église. Troisième chose, c'est un peuple qui persévérait. Et vous savez, la persévérance, c'est quelque chose qui coûte quelque chose. Vous savez, vous êtes venu ici ce matin, beaucoup de neige. Diane me dit, as-tu remarqué, Michel, à chaque fois que tu prêches, il y a une tempête. Je me demande si ce n'est pas un signe de Dieu que je parle trop, que je dois me taire. Mais, ceci dit, j'en profite pour vous dire la persévérance. Ça veut dire, oui, je persévère, je suis fidèle à mon assemblée. il mouille, on est comme les facteurs qui mouillent, qui pleut, qui a de la tempête, on est là. C'est vrai qu'il y a des bonnes raisons valables de ne pas être là, c'est correct. Mais persévérer. Mais si je manque une réunion, moi, Michel Penneau, c'est pas plus grave que ça, vous êtes tous là quand même. Mais il y a quelque chose qu'on doit toujours persévérer comme chrétien. Un, dans l'enseignement des apôtres. Là où ce qu'on enseigne la parole de Dieu. Vous savez, j'ai lu tout à l'heure la parole, j'ai rencontré un homme qui a travaillé pour la Société biblique à Ottawa, puis il est venu visiter notre assemblée. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, moi, il dit, je visite des dizaines d'assemblées par année, puis il dit, ils sont rares les églises qui lisent la Bible publiquement. Ils sont rares, de plus en plus rares, qui lisent la Bible publiquement. Puis il trouvait ça beau et étrange. Elle revient pas. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est d'être de ceux qui sont à l'écoute de ce que les apôtres nous ont enseigné dans la Bible. Lorsque je réponds à une question, je ne dis pas « Michel Penneau pense ceci ». Je dis « La Bible dit cela ». Si tu n'es pas d'accord avec moi, assigne-toi avec la Bible. Moi, je ne m'assigne pas. Mais la Bible dit cela. Donc, on est de ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Il y a toutes sortes de modes, il y a toutes sortes de choses qui nous est proposées aujourd'hui. On va vous proposer de définir le bien et le mal. On va vous proposer de définir votre priorité de vie selon tel gourou. Mais la parole de Dieu nous dit, nous, disciples du Seigneur Jésus, sauvés par l'Évangile, on est de ceux qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres. La deuxième chose, c'est que dans la communion fraternelle, êtes-vous comme un petit poisson rouge dans l'eau quand vous êtes parmi les chrétiens? Moi, je le suis. N'importe où. Le peuple de Dieu, c'est le meilleur des peuples, même avec tous ses défauts. Il ne faut pas oublier ça. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui aime être ensemble. Puis communion fraternelle, ce n'est pas nécessairement aller manger ensemble ou partager un café. C'est plus que ça. C'est d'investir dans la vie des uns des autres. La communion fraternelle, c'est plus que se dire bonjour le dimanche matin. C'est de se côtoyer durant la semaine. C'est d'investir spirituellement, financièrement, point de vue énergie dans la vie les uns des autres. C'est l'idéal. Et c'est ce qu'on voyait dans les actes des apôtres qu'on a lus tout à l'heure. Les gens investissaient dans la vie des uns des autres. La troisième chose, c'était la fraction du pain. Certains vont vous dire, oh là, ils mangeaient ensemble. Mais le reste du verset nous dit qu'il prenait avec simplicité de cœur la chose. Mais rompre le pain, pour nous, est un titre dans les actes du repas du Seigneur. Là où se comprend les emblèmes. Là où ce que le fruit de la vigne et le pain est une chose de spéciale pour nous autres. C'est un temps de faire taire le train de ce monde. Venir ensemble dans la tranquillité, dans la paix. Venir ensemble pour louer Dieu, adorer Dieu, le remercier pour ce si grand salut, et être émerveillé de notre salut ensemble, et s'édifier ensemble avec comme un parfum de bonne odeur qui arrive devant le trône de grâce. Fraction du pain. La troisième chose, c'est les prières. Lorsque je vais tomber malade, j'espère que vous allez prier pour moi, comme qu'on prie pour Suzanne. Que c'est donc réconfortant. Puis j'ai visité beaucoup de malades dans ma vie, puis quand je lui disais, écoute, l'Assemblée prie pour toi. Plusieurs disaient, je le sens quand l'Assemblée prie pour moi, ça me fait du bien. Juste le savoir, ça me fait du bien. Prier les uns pour les autres. C'est-à-dire investir du temps, du gaz, le mercredi, le jeudi, le vendredi, en dehors des réunions du dimanche matin, où ce qu'ensemble, on va venir d'une manière tout à fait spécifique pour prier les uns pour les autres. Et je crois qu'à l'Assemblée du Cap, il faut travailler très fort pour avoir des groupes de prière vivants qui intercèdent dans la prière. Et moi, je suis content de savoir que ce soir, il y a une réunion de prière pour la construction. Gloire à Dieu! Qu'il y a des réunions de prière le mercredi, qu'il y a des réunions de prière... Y en a-t-il qui vont en dehors du mercredi ici? Tout le mercredi, pas mal, hein? Ouais. Ça peut être le vendredi aussi, si le mercredi, ça ne vous adonne pas. Ça peut être le lundi, ça peut être le mardi. Mais la prière, il persévérait dans ces quatre choses-là. Ralph Chalice a écrit un beau petit livre qui a été traduit, je ne sais pas, dans des dizaines de langues, qui s'appelle « Si tu veux aller plus loin ». Et dans ce petit livre-là, de Ralph Chalice, « Si tu veux aller plus loin », c'est ces quatre choses-là qui amènent dans ce livre-là. Puis il dit quand une de ces quatre choses-là, si une de ces quatre choses-là cloche, oh, ça, là, je viens de voir l'heure. Une de ces quatre choses-là cloche dans ma vie, Michel, fais attention, c'est un drapeau rouge. Si ça cloche, cela, il y a un drapeau rouge dans ma vie. OK? Tu n'es pas en train de... Tu n'en vas pas en enfer, là, mais il y a un drapeau rouge dans ta vie. Et ça, c'est important. Le Saint... Vous savez, un peuple craignant Dieu, la crainte de Dieu, phobios. Tu sais, il y en a qui ont traduit ça profond respect. Ça, c'est pour faire digérer ça aujourd'hui en Amérique du Nord, mais l'original, c'est très clair. C'est tu crains Dieu. Parce que Dieu est un Dieu dévorant et vivant. Dieu dans l'Ancien Testament, là, dans l'Exode et partout dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu, quand Moïse est arrivé devant le buisson, il a dit « Enlève tes souliers parce que c'est une terre sainte, parce que Dieu est présent là. » La crainte de Dieu. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, ça cloche. Une église qui n'a pas la crainte de Dieu et n'a pas en horreur la gravité du péché et l'étendue du péché, c'est grave. Parce que le péché est premièrement une offense à Dieu. Premièrement une offense à Dieu. Un peuple craignant Dieu. C'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Sérieux avec la sanctification progressive. Sérieux lorsqu'on met quelqu'un sous discipline. Sérieux lorsque l'Église se prononce sur des cas difficiles. C'est une Église qui craint Dieu plus que les hommes. Parce que quand les hommes deviennent plus grands que Dieu, ça devient quoi? Des groupies de gourous. Un peuple visible. Pas invisible, visible. La communauté entoure, là. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça s'est répandu comme un feu de broussaille. Qu'est-ce qui est arrivé dans Actes 2? L'Évangile est prêché. Ils entendent l'Évangile à 15 langues, à la langue natale. Et là, l'Évangile, ils sont visibles. Le monde voit ça. Le monde craint Dieu en les voyant agir. Et Dieu, d'une manière spéciale, par des prodiges et des miracles, à cause que c'était la naissance de l'Église, et c'est les apôtres qui le faisaient, a fait un point d'exclamation dans le premier siècle en disant, « Voici les disciples de Jésus qui ont une bonne nouvelle pour le contemporain. Car Dieu a tant aimé le monde. Qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un peuple visible. Visible à la TV, visible à la radio, visible dans le quartier, visible dans le Québec, visible dans l'Ouest canadien, visible aux extrémités de la terre, comme qui a été prié. Visible. Pourquoi? Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Essayez pas de vous cacher. On ne prend pas une lampe pour l'allumer, pour mettre ça sous le, hein, en dessous du lit, là. Ça le feu va pogner après le matelas. Tu mets ça en haut pour que ça éclaire. Et c'est le défi de l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine dans sa reconstruction spirituelle. Une autre chose qu'on voit dans 2:44a, un peuple uni. Vous savez, le terme diabolos, c'est diviseur. Et le diable se frotte les mains et il est content de voir des divisions. Personne d'autre est content de ça. Juste le diable. Ça coûte cher, ça fait mal au Seigneur, ça fait pleurer le Seigneur parce que ça vient du diable, la division. Mais on voit dans les Actes un peuple uni, j'irais même, ils sont tellement unis, là, que même le portefeuille est converti. Parce que il y a un paquet de monde qui est là, et puis là, ils ont comme l'impression, eux, dans le premier siècle, que le Seigneur va revenir tout de suite. Ça a pris quelques persécutions pour les disperser un peu plus loin, mais à tous les cas, disons, pour rester dans mon sujet, il y a moins encore, il faut savoir que, en fin de compte, ce peuple-là était tellement uni que quand ils voyaient les frères crever de faim, ils vendaient un terrain pour nourrir les frères qui crevaient de faim. Puis là, quand ils avaient tout mangé cet argent-là, ils vendaient un autre terrain. Je le dis de même, pourquoi? Parce que dans le texte, ce n'est pas marqué qu'ils ont fait un gros pot d'argent avec toutes les maisons et tous les terrains. à chaque fois qu'il y avait un besoin, il vendait un par un les maisons, les terrains, pour satisfaire le besoin de nourriture et vêtements à ceux qui étaient là. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Un peuple uni au point qu'on investit ensemble, même notre portefeuille, et c'est ce que vous faites, on voit le budget, on voit la construction, on voit les surplus. On est convertis, on est unis, unis parce qu'on sait où on s'en va. La vision, c'est que nous voulons faire une différence dans cette société devant nos contemporains en 2015 et nous voulons présenter l'Évangile aux gens qui nous entourent et leur démontrer l'amour de Jésus pour eux. C'est ce qu'on veut faire. Et ça prend de l'huile à bras et ça prend des disciples pour faire cela, c'est-à-dire vous et moi qui allons marcher unis sous la bannière de Christ pour glorifier Dieu. La septième, c'est un peuple généreux. Et là, j'arrive, qui pourvoyait aux besoins. Je me suis devancé à cause du temps, mais il pourvoyait aux besoins. Dans Actes 4, 32 à 35, c'est marqué qu'il vendait un par un les maisons. Ils étaient tellement unis ensemble, généreux. Un peuple généreux. Parce que c'est un peuple que Mammon, ce n'est pas leur Dieu. Le Dieu Mammon, pour eux autres, là, ça ne les influence plus. Avant, comme Zachée, hein? L'argent, c'était tout. Mais quand il s'est converti au Seigneur, il a pris l'argent et il a distribué tout l'argent qu'il avait pris en double, en triple. 7. Un peuple pieux. Et c'est intéressant, 2.46a. Ils étaient chaque jour. Regardez les deux autres mots. Ensemble. Ensemble. Chaque jour ensemble. Assidus au temple. Regardez, dans le premier siècle, ce qui arrivait, c'est que c'était encore des Juifs. Hein? Fait qu'ils allaient au temple pour le sabbat, puis ils évangélisaient au temple, puis ils se réunissaient le dimanche pour prendre la table du Seigneur. Alors, on voit ici qu'il était un peuple pieux, un peuple qui a un zèle pour Dieu, une ferveur pour Dieu, que Dieu dans leur vie, c'est important. Dieu dans leur vie a une place. Dieu dans leur vie, ils prennent des décisions, pas contre Dieu, mais avec Dieu pour leur vie. Et le peuple de Dieu est un peuple pieux, qui craint l'Éternel, qui vit une relation avec Dieu qui est agissante, vivante, sérieuse. Et ce n'est pas des gens qui se laissent aller tout le temps et puis qui essayent ça de temps en temps. 9. Un peuple joyeux. Ça, j'aurais aimé ça passer plus de temps là-dessus parce qu'un des problèmes, c'est la joie. Et 46B le disait, là, joyeux. Ils prennent leur nourriture avec joie. Alors, je disais à Diane l'autre jour, il y a tellement de choses dans le frigidaire. On a un petit frigidaire de rien depuis qu'on est déménagé. Là. On a tellement de nourriture, des GA, il y en a partout. On est dans l'abondance. Vous regardez un peu partout dans le monde, c'est pas tout le monde qui a autant de stock que nous autres en Amérique du Nord. Puis, je me disais à moi-même, on a tout ça, puis on n'est pas plus joyeux. On est même triste parce qu'on engraisse. Là, tu essaies de perdre du poids, puis ça marche. Presque pas, disons, dans mon cas, ça ne marche pas trop. Mais comprenez-vous l'idée? C'est à quelque part, il y a de quoi de pervers dans ça. Et pourtant, dans le premier siècle, c'était probablement des gens qui avaient juste de quoi se nourrir, juste de quoi se vêtir dans un système monarchique avec des esclaves, hein, système d'esclavage, qui n'étaient pas nécessairement trop payés, qui n'avaient pas d'union dans ce temps-là. Il n'y avait pas de conflit. On ne voit pas Paul avec des pancartes qui veut une augmentation de salaire. On ne voit pas ça. Il ne se promène pas devant les tavernes pour dire au monde d'arrêter de boire. Il ne se promène pas devant les places d'avortement pour lui dire d'arrêter d'avorter. À quelque part, c'est un peuple joyeux. Un peuple émerveillé de leur grand salut, d'être ensemble. Et ça, c'est important. Cultiver la joie. Regardez. Ici, lorsqu'on regarde le texte, il nous dit, « C'est là ce qui fait votre joie. » Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Apprendre à se réjouir de notre relation avec Dieu, c'est tout un art. Jacques est raide, hein? Le premier chapitre de Jacques qui dit « Regardez toute épreuve comme un complet sujet de joie. » C'est complètement de la joie. Pourquoi? Se réjouir, pourquoi? Quel est l'objet de notre réjouissance, frères et sœurs? C'est quoi l'objet de votre réjouissance? C'est-tu votre nouvelle auto? C'est-tu l'appartement? C'est-tu l'argent? C'est-tu de manger? Même s'ils nous disent qu'on mange nos émotions. Qu'est-ce qui fait notre joie comme chrétien, comme disciple du Seigneur? C'est l'Évangile, le grand salut dont nous sommes bénéficiaires. On est émerveillés de notre grand salut, la grâce de Dieu envers nous, l'amour de Dieu envers nous. Il faut être joyeux tout en étant solennel, mais pas morbide. C'est pas une... Brown, il disait... c'est un super pété, là. Il dit d'une église fondamentaliste, il dit qu'il a appelé l'ambulance. Il y a un gars qui m'a fait une crise de cœur. Ils ont vidé trois rangs de trouver. Non, mais il fait des jokes demain. C'est un stand-up comique évangélique, là. Mais pensez-y, là. Je veux bien croire que c'est exagéré, ça, là. C'est niaiseux, là. Ça m'a insulté quand j'ai entendu ça. J'étais choqué, là. Mais pense qu'on se dit comme ça. Quelqu'un qui rentre ici puis nous voit dans la joie, est-ce qu'on la traduit comme il faut, notre joie? Est-ce qu'on démontre à ceux qui viennent nous voir de l'extérieur qu'on est vraiment joyeux? Vous savez? Comment se réjouir d'une joie ineffable? La joie ineffable de la personne de Dieu que nous connaissons de plus en plus en grandissant avec lui. Du grand salut qu'il nous a donné, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout passe sur la terre. Les comptes de banque rapetissent, ça coûte de plus en plus cher. Les chars usent, le mien, il y a 2 500 $ de réparation à mettre dessus. Le linge qu'il me faisait plus. Tout va mal. J'ai aucune raison de me réjouir. Sinon, de me réjouir comme mon nom est écrit dans le livre de vie. Êtes-vous heureux de ça? Apprenons à nous réjouir ensemble. C'est pour ça la table du Seigneur, c'est une occasion en or de faire cela. Alors, je vais y aller avec ça. Parce que vous obtenez le salut pour prix de vos âmes. Voilà, pour ça. Ça le dit pourquoi qu'on doit se réjouir, là. C'est-tu merveilleux que vous avez saisi Jésus-Christ, puis... Des fois, je parle avec des gens qui ne l'ont pas encore saisi. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'ils saisissent? Ils ne saisissent pas. C'est bouché des deux bouts. Je ne sais pas comment ça ne marche pas. Mais, le Seigneur est tout puissant dans ça, n'est-ce pas? On est complice avec l'Esprit-Saint. La 10e chose qu'on peut observer, c'est un peuple humble. Et c'est le mot traduit, souplesse, humble. Simplicité de cœur. Quand il dit, ils prennent de la nourriture avec la simplicité. On n'est pas exigeant les uns envers les autres. Intransigeant. Coupe les cheveux en quatre sur tout. Ah, t'es pas peigné sur le côté gauche. Tu devrais être peigné sur le côté droit. Non, faut que tu sois peigné dans le milieu. Moi, en passant, quand je me lève, là, je suis en mode. Je suis tout peigné dans le milieu comme ça. Anna Diane, c'est incroyable. Ah, ton pinch en bas des lèvres ou en haut des lèvres? Ah, non, pas de pinch pantoute ici, là. Cravate, pas de cravate. On n'en veut pas. On en veut. Pas ça. Ça, elle dit, ce cravate-là, mais elle est tout en train de descendre. Un peuple simple, comme tout le monde. Ils reçoivent quelqu'un, ils ne sortent pas le vaisselle de Noël qu'ils ne prennent jamais. Ils prennent la vaisselle normale. Hey, c'est-tu du monde simple, ça? Hein? Hey, c'est-tu le fun de visiter ce monde-là? Ils ne se fendent pas en quatre pour sortir. Une fois, moi et Pizanne, on était en train d'évangéliser une place. À 11h15 le soir, la femme a commencé à sortir le frigidaire. Pas des farces pour compte, là, hein, Diane, te souviens-tu, à Saint-Pierre-de-Béquet? Et il y a la table plein de fromage, puis plein de toast, puis hey, à 11h15 le soir, moi je suis travaillé le lendemain. Je savais plus comment sortir de ça. C'était pas simple, la fois, c'était compliqué. Et là, oh non, on peut pas inviter du monde à la maison, exercer l'hospitalité, c'est trop compliqué, c'est trop dur, faut peinture avant, puis changer le tapis, puis changer le divan. Mais c'est ce qu'on voit dans l'Église de Jésus-Christ, du monde simple. Puis tout le monde qui visite quelqu'un de simple sort de là, puis ils sont donc contents. Ils n'ont pas fait de brouhaha, ils nous ont accueillis avec hospitalité et avec amour, puis ça a fait pareil. Je patine. Un peuple qui loue Dieu et se créer des plages dans l'assemblée où ce qu'on va pouvoir louer Dieu ensemble, hein, mes femmes. Ça créer un temps, une plage, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, où ce qu'on va pouvoir louer Dieu, parce que c'est ce qu'on voit. On dit du bien de Dieu. On remercie Dieu par des actions de grâce, de la louange. C'est important. Et c'est ce qu'on voit dans les Actes des apôtres. Un peuple qui loue Dieu, qui donne gloire à Dieu, qui sont émerveillés par la bonté puis l'amour de Dieu pour eux. Une autre observation, c'est un peuple qui rend un bon témoignage. Un peuple qui rend un bon témoignage. Parce que les gens du dehors le disent, « Hey! » Là, ils se demandent, « Qu'est-ce qui se passe dans ce gang-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? » Et là, on peut le dire, on est des disciples de Jésus. Ah, vous ne jouez pas tout aux échecs. Non. Non, on ne joue pas tout aux quilles. On ne se peigne pas tout sur le même bord. Voyez-vous, un peuple qui rend un bon témoignage, un peuple qui se multiplie, l'Évangile est annoncé, et le Seigneur fait en sorte que l'Évangile est proclamé, et ces gens viennent au Seigneur, un par un. Un peuple qui est bâti par Dieu, c'est le dernier, qui est bâti par Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui rajoute à l'Assemblée, parce que le mot « Église » n'est pas dans le document, là. Ils ont mis « Ecclesia », mais c'est le mot « Assemblée », le rassemblement. Le Seigneur rajoute au rassemblement des chrétiens, c'est lui qui rajoute, c'est lui qui prend les pierres vivantes et qui fait l'Église, de complice avec nous, et c'est tellement merveilleux, c'est ce qui arrive dans les Actes. Je vais demander s'il reste des musiciens qui sont encore ici. Steve? Je vous poigne par surprise, les gars. Hein? Écoutez, je me suis dit à moi-même, il faut prier après. Hein? Puis moi, là, je ne suis pas ici pour bourrer le crâne des gens, là, mais à quelque part, là, on est tous des ouvriers pour le Seigneur. Puis je pense que la tradition donne l'auteur de ce cantique, Saint François d'Assise. Mais il y en a qui le contestent. Mais peu importe, moi je regarde les paroles qu'il y a là-dedans, puis je me dis, Seigneur, si par ta grâce, tu fais de chacun de nous à l'Assemblée du Cap des ouvriers de paix, on va faire une différence. Alors, regardez ce qui arrive avec la Russie, puis la Corée du Nord. Regardez ce qui arrive avec le terrorisme. Regardez ce qui arrive partout dans le monde, si vous suivez les nouvelles. C'est la guerre, c'est la haine, c'est la destruction de l'enfant à l'adulte. On est vraiment d'un monde en chute libre. Et si nous, on n'est pas des ouvriers de paix dans tout cela, frères et sœurs, qui va l'être? Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers d'amour.